On m'a demandé de vous raconter une histoire. Une histoire vraie. Une histoire triste, à certains égards. Et une histoire qui a changé la face du monde. Je vais vous raconter l'histoire d'un certain Yaakov Ben Yitzhak, mieux connu dans nos contrées sous le nom de Jacob, le patriarche Jacob. Grand magouilleur devant l'Éternel. Cette histoire nous plonge en plein âge de bronze, à peu près 1800 ans avant Jésus-Christ. Un certain Isaac, un riche héritier, et sa jeune femme et nièce, Rebecca, une très belle femme à ce qui paraît, forme un très joli couple. Seulement, il y a un problème. Ils n'ont pas d'enfants. Et ça, après 20 ans de mariage. C'est une catastrophe dans leur société. Et donc, Isaac supplie Dieu de leur donner un enfant. Et Dieu entend cette prière. Et Rebecca tombe enceinte. C'est une grossesse difficile. Au point qu'elle consulte Dieu, et Dieu la rassure, il va lui dire qu'elle attend non pas un bébé, mais deux, des jumeaux, et en plus, ce ne seront pas des jumeaux comme tous les autres. Car Dieu lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples vont naître de toi, l'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Et effectivement, peu de temps après, elle donne naissance à deux garçons. Le premier à naître, il est tout poilu et roux, et on lui donne le nom d'Ésaü. Mais il semble déjà y avoir eu de la concurrence dans le ventre de leur mère, parce que le deuxième qui naît, lors de sa naissance, il tient le talon du premier, comme s'il voulait le freiner. On lui donnera le nom de Jacob, qui est un nom qui évoque le talon, mais aussi un nom qui est très proche du verbe tricher. Et on verra que Jacob portera ce nom très très bien. Les deux garçons sont très différents l'un de l'autre. Ésaü est un homme viril, toujours à la chasse, toujours à la campagne. C'est un homme dur. Du genre, s'il vivait aujourd'hui, à voter chasse, pêche et tradition. Jacob, quant à lui, est un homme beaucoup plus doux, plus efféminé peut-être. Il aime rester à la maison, il est casanier, il aime rester avec les femmes, il est un bon cuisinier aussi. Et Isaac, lui, il adore Ésaü. Mais Rebecca a un faible pour Jacob. Donc vous voyez, un fils à papa, un chouchou à maman, ça va faire quelques problèmes. Jacob n'est pas seulement beaucoup plus doux que son frère, il est aussi beaucoup plus rusé. Et il décide de s'approprier le statut de son frère qui est premier-né. Et un jour, on ne voit pas très bien ici, mais c'est comme ça qu'un artiste l'a imaginé. Un jour, Ésaü rentre donc de la chasse, affamé, et il voit son frère qui cuisine un de ses plats de lentilles, comme il les adore. Et il lui dit, donne-moi à manger de ça. Et Jacob dit, d'accord, je t'en donnerai, mais en échange, tu me donneras ton droit d'aînesse. Ésaü, obnubilé par sa faim, et d'accord, il lui donne son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il ne sait pas qu'un étau se resserre sur lui. Quelques temps après, Isaac sent qu'il est temps pour lui de passer le relais. Il est âgé, il a 137 ans, il est grabataire, il est aveugle, et il pense qu'il aura plus longtemps à vivre, ce qui est faux. Il vivra encore plus de 40 ans. Mais en tout cas, il décide que c'est le moment de passer le relais et il convoque donc son fils Ésaü, son premier-né, à qui il doit transmettre, je dirais, sa bénédiction, il va lui dire, tu vas à la chasse, tu vas ramener un de ces gibiers que j'aime, tu vas me préparer ça, et après je te donnerai la bénédiction. Ésaü, tout content, s'en va. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa mère a écouté, et elle a décidé que ce serait Jacob qui aura la bénédiction. Donc elle va monter tout un stratagème, elle va préparer rapidement un bon repas, et va dire à Jacob de se déguiser et d'aller voir son père en lui faisant croire que c'était Ésaü. Et Jacob, il n'a aucune gêne à faire ça. Il va se présenter devant son père déguisé. Quand Isaac lui demande, c'est bien Ésaü, hein, t'as une drôle de voix, il va lui dire, oui, c'est moi. Et quand Isaac s'inquiète pourquoi il revient si tôt de la chasse, il n'hésitera pas à dire, c'est que le Seigneur, ton Dieu, il a fait venir du gibier vers moi. Donc voyez-vous, la ruse fonctionne et le vieux père Isaac va donner la bénédiction à son fils Jacob en croyant que c'est Ésaü. Alors là encore, comme un artiste a imaginé la scène, ce qui n'est pas tout à fait correct, hein, l'impression qu'on a ici, parce que au moment où il reçoit cette bénédiction, Jacob n'est plus un jeune garçon. Si les chiffres bibliques sont exacts, il a 77 ans quand même. En tout cas, ça se passe comme ça, mais quand Ésaü revient de la chasse, vous imaginez la scène. Il est scandalisé et comme c'est un homme entier, il décide qu'il va en finir avec Jacob. Donc dès que son père serait mort, Jacob mourra aussi. Et Rebecca, elle ne peut pas supporter cette idée, et comme c'est une femme qui a des idées dans la tête, elle va envoyer son fils loin, c'est-à-dire dans sa famille à elle, qui est en Mésopotamie, pas en Canaan, assez loin donc, sous prétexte qu'ils doivent y trouver une femme. Et effectivement, Jacob s'en va, avec cette bénédiction en poche, mais c'est tout ce qu'il a. Il aura perdu tout le reste. Il aura perdu sa famille, ses biens. Il part avec comme seule possession un bâton. Et c'est une constante dans la vie de Jacob. Dans les moments durs, il rencontre Dieu. Et là aussi, et en fait, il va se coucher lors de son voyage et il va faire un rêve, il aura une vision de Dieu. Vous ne le voyez pas très bien encore une fois, c'est comme Marc Chagall a imaginé cette scène. Il voit une échelle entre le ciel et la terre et des anges qui montent et qui descendent. Et puis plus important encore, Dieu va lui parler dans son rêve. Et Dieu lui dit la chose suivante, et c'est assez fort, vous verrez. Il dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père. Abraham est mort quand Jacob avait 15 ans. Et le Dieu d'Isaac, ton père, la terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Moi, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Jacob se réveille et il fait une prière. Vous allez voir, c'est une prière intéressante. Il donne bien une idée de l'état d'esprit du jeune Jacob, enfin jeune. Si le Seigneur est avec moi, dit-il, s'il me protège pendant mon voyage, s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me couvrir, si je reviens en bonne santé dans ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. Donc, voyez, nous sommes en train de marchander. Jacob fait un deal avec Dieu. Vous allez voir que Dieu le prend au mot. Jacob arrive donc enfin en Mésopotamie, dans la famille de Laban, qui est son oncle, le frère de sa mère. Et là, c'est le coup de foudre. Là, il va rencontrer la femme de sa vie, une très belle femme aussi, et cette femme s'appelle Rachel. C'est la fille cadette de son oncle, donc sa cousine. et Jacob est aux anges. Et il va rapidement se mettre d'accord avec son oncle de travailler pour Laban pendant 7 ans, et en récompense pour ce travail, il aura la main de Rachel. Il pourra épouser Rachel. Et la Bible nous dit que ces 7 ans sont passés comme un coup d'œil parce que Jacob aimait Rachel. C'est donc le moment des noces. Hein, on va se marier. Mais c'est sans compter sur ce vieux renard qu'est son oncle Laban. Parce que le moment venu, dans la nuit de noces, Laban va amener une autre femme à Jacob, sans doute sous un voile opaque, la nuit aidant. Hein. Et quand il se réveille le lendemain matin, Jacob trouve que la femme dans son lit n'est pas Rachel. C'est sa sœur aînée, Léa. Scandale. Il va voir Laban, qu'est-ce qui se passe? Et Laban, il dit, hop, tu sais, chez nous, c'est pas l'habitude de marier les jeunes avant les plus âgés. Mais Laban comprend bien que ça ne peut pas faire. Et il dit, écoute, si tu me promets de travailler encore 7 ans pour moi, je te donnerai aussi Rachel. Et donc, à l'issue de cette semaine, Jacob se trouve avec, non pas une, mais 2 femmes. Il aura encore à travailler pendant 7 ans pour Laban. Permettez-moi juste de vous faire toucher à quelque chose, c'est que vous avez là des familles hautement dysfonctionnelles. La famille de Jacob, c'est horrible. Un père qui est, permettez-moi de le dire, qui est dans les choux, sa mère qui magouille, Jacob qui triche comme c'est pas possible, et son frère qui décide de le tuer. Ça, c'est vraiment un peu comme on peut le voir à la télé. Et puis, il va chez Laban et c'est guère mieux. C'est un père qui traite ses filles comme des sacs de patates et qui n'hésite pas à rouler son gendre dans la farine. Et vous allez voir, c'est pas encore fini. Donc, ce sont des familles quand même limites. En tout cas, la famille de Jacob, elle sera guère mieux. Parce qu'entre les 2 femmes, entre Léa, l'aînée, et sa sœur Rachel, ça se passe très très mal. Il y a fait une espèce de guerre des couches qui s'installe, c'est-à-dire qui va donner plus d'enfants à Jacob. Et chaque enfant sera célébré comme une bataille de gagner contre l'autre. Donc c'est Léa qui accouche à plusieurs reprises, elle a vraiment une belle position d'avance, et Rachel, elle est stérile. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner sa servante, un peu comme une mère porteuse, à Jacob. Et celle-ci, donc, a des enfants, c'est une victoire pour Rachel. Et ensuite, c'est Léa qui n'arrive plus à avoir des enfants, alors elle aussi donne sa servante à Jacob, qui se trouve donc finalement avec 2 épouses et 2 concubines et tout un tas d'enfants. Et peu de temps après la fin de la 2e période de 7 ans, c'est enfin Rachel aussi qui va avoir un enfant, un certain Joseph, qui va jouer un rôle un peu plus tard. Vous imaginez un peu l'atmosphère familiale, complètement pourrie chez les Jacob. À l'issue de cette 2e période de 7 ans, Jacob, il n'en peut plus. Et il décide que c'est le moment d'en partir, de revenir peut-être au pays. Et quand il en parle à Laban, il sent bien que ce n'est pas une bonne affaire pour lui, parce que Jacob, il travaille bien, il réussit bien. Et donc, il lui propose qu'il reste encore, mais cette fois-ci, il aura une récompense. Il aura un salaire pour son travail. Et il lui dit, écoute, c'est un deal entre les deux hommes, la récompense de Jacob, ce sera toutes les bêtes, tous les moutons rayés et tachetés qui naîtront dans le troupeau de Laban seront pour Jacob et les autres pour Laban. Ce que Laban ne dit pas à Jacob, quand il signe ce contrat, c'est que avant de confier ce troupeau à Jacob, il va enlever toutes les bêtes rayées et tachetées. Donc les chances pour Jacob de s'enrichir sont minimes. Mais c'est faire le compte sans le patron, parce que Jacob a aussi des idées, et Jacob va inventer ce qu'on appellerait aujourd'hui les biotechnologies. Il va trouver une astuce pour faire que dans ce troupeau, les bêtes vigoureuses, les bêtes fortes, feront des petits rayés et tachetés. Vous lirez comment il fait, c'est assez extraordinaire. Et ça marche, et les bêtes chétives, là, il fait en sorte que ce soit pour l'amant. Et à la fin de ces 6 ans, Jacob s'est horriblement enrichi aux dépens de son oncle. Jacob est immensément riche parce que toutes les bêtes auront fait des petits qui reviennent à Jacob. Et comme toujours, avec ses ruses, Jacob y triomphe, mais comme toujours, il se fait des ennemis. Et là, ses ennemis, ce sont ses frères, les frères de Rachel plus précisément, et de Léa. Et il nous est dit, le regard de Laban aussi, il change. Et Jacob, il sent que c'est temps d'en finir, de partir. Et Dieu aussi dit à Jacob à ce moment-là, écoute, maintenant tu t'en vas, tu rentres au pays. Et Jacob, il fait ça un peu, d'une manière un peu cavalière. Il s'en va sans rien dire à Laban, il prend ses femmes, ses enfants, ses bêtes, et hop, ni vu ni entendu, il s'en va. Évidemment, Laban aura vent de l'affaire, et il n'est pas d'accord, et il le poursuit avec tout le clan, 7 jours de chasse à l'homme dans les montagnes, et il finira par coincer Jacob. Mais à ce moment-là, Dieu intervient et dit à Laban, écoute, mon vieux, tu ne feras pas de mal à Jacob. Et Laban ne peut rien faire. Il y aura une rencontre entre les deux hommes qui sera assez musclée. Mais finalement, Laban laissera partir Jacob. Le problème, c'est que le vrai problème, il viendra maintenant. Parce que quand Jacob rentre en Canaan, il envoie des gens vers Ésaü pour lui dire « je reviens ». Et ce qu'il entend n'est pas rassurant, parce qu'on lui dit que Ésaü vient vers lui avec 400 hommes. Et là, Jacob, il craque. Là, Jacob vit peut-être le moment le plus difficile de sa vie, parce qu'il se rend compte qu'il va peut-être tout perdre. Tout ce qu'il a construit avec ses tricheries et avec son travail, avec son ingéniosité, tout ce qu'il a pu construire risque d'être anéanti et il ne pourra rien faire. Il a peut-être quelques main-d'œuvre avec lui, mais il a des femmes, des enfants, des troupeaux. Qu'est-ce qu'il va faire contre 400 hommes? Jacob, il craque. Il sait que c'en est fini avec ses ruses. Là, il ne pourra pas s'en sortir comme ça. Et là, Jacob va passer la nuit la plus difficile de sa vie. Et en même temps, c'est une nuit magnifique. Ce sera la nuit du destin de Jacob. Et je vous propose qu'on lise ensemble ce texte qui est un des textes les plus mystérieux et en même temps, je trouve, un des textes les plus beaux de l'Écriture. Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. Voyant qu'il ne peut pas l'emporter, son adversaire le touche à l'articulation de la hanche et celle-ci se démet dans la lutte. Il dit à Jacob, laisse-moi partir, car le jour se lève. Jacob répond, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. L'autre lui dit, quel est ton nom? Il répond, Jacob. L'autre dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu l'as emporté. Jacob lui demande, « Révèle-moi ton nom. » L'autre répond, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il bénit Jacob. Jacob donne à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. Le soleil se lève lorsqu'il passe Penuel. Jacob boite de la hanche. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là ? Jacob a fait le bilan de sa vie, de cette vie de tricherie, de faits pas très glorieux, cette vie assez misérable en fin de compte. Et il se rend compte que il ne pourra plus continuer comme ça. Il se rend compte que toutes ces ruses ne vont pas le sortir de cette situation difficile dans laquelle il s'est empêtré. Coincé d'un côté par Laban, de l'autre par son frère Ésaü. Il sait qu'il a besoin de Dieu. Et maintenant, il sent que Dieu aussi s'en va. Laisse-moi partir car le jour se lève. Et Jacob dit non. Non, il ne faut pas que tu partes. Il ne faut pas que tu partes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta bénédiction parce que sans toi, je ne m'en sortirai pas. Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Il lui dit, quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Comme s'il ne le savait pas. Pourquoi il dit ça ? Pour que Jacob fasse le constat lui-même. Je suis Jacob. Je suis le tricheur. Et Dieu lui dit, non, c'en est fini. Tu n'es plus Jacob. Tu n'es plus le tricheur. Tu es Israël. Tu seras le lutteur désormais. Et il lui donne sa bénédiction. Voyez-vous, Jacob, il a reçu trois choses cette nuit-là. La première, c'est celle qui saute aux yeux. Il a reçu une blessure. Pour le reste de sa vie, Jacob boitera. Et ça, c'est une constante. Quand on lutte avec Dieu, on n'en sort pas indemne. Jacob sera boiteux le reste de sa vie. Il aura besoin sans doute d'une canne sur laquelle s'appuyer pour qu'il n'oublie plus jamais que ce sera sur Dieu qu'il faudra s'appuyer. Deuxièmement, Jacob reçoit un autre nom. C'est plus Jacob, ça sera Israël. C'est plus le tricheur, c'est le lutteur. Sa vie sera changée. Et sa personne, ce que représente son nom, il ne sera plus le même. Et la troisième chose, c'est celle pour laquelle il a lutté, il l'aura, cette bénédiction. Il l'avait volée, il l'avait déjà, mais il a bien réalisé que ça ne pouvait pas faire. Il fallait que Dieu la lui donne. Et il a lutté pour ça. Et il l'a obtenu. Et cette bénédiction, nous la voyons à l'œuvre dès le lendemain, lorsqu'il fera enfin cette rencontre avec Ésaü, et ça se passera bien. Ça se passera bien. On ne sait pas les intentions avec lesquelles Ésaü est parti de chez lui, mais on sait que lorsqu'il a rencontré Jacob, ça s'est bien passé. Et le reste de la vie de Jacob, il portera les traces de cette nuit-là. Jacob n'est pas devenu un saint du jour à l'autre. Le lendemain, lorsqu'il quitte son frère, il le quitte quand même avec un mensonge sur les lèvres. Il reste encore un peu de ça. Mais sur le fond, c'est plus le même homme. Et on va le voir dans la suite des événements. Il y a deux événements marquants dans la vie de Jacob. Et on va voir que Jacob est devenu un autre. C'est plus le même. C'est plus le même. Le premier événement marquant dans la vie de Jacob après cette nuit-là, le premier événement, c'est le viol de sa fille. Il a eu aussi une fille de sa femme Léa, Dina, et cette fille se fait violer par un fils de notable local. Aujourd'hui, peut-être on dirait le fils d'un maire. Et cet homme viole donc sa fille, mais après, il se passe quelque chose entre les deux, et il sait parler au cœur de cette jeune fille, et il la demande en mariage. Donc, il a l'intention de réparer cet affront. Mais avant que ce projet puisse arriver au terme, les frères de la même mère, donc Siméon et Lévi, les frères de Dina, vont décider de prendre la chose en main. Ils montent encore une ruse assez recherchée, ressemble au jeune Jacob d'une certaine manière, et puis ils vont assassiner tout le village. C'est un débordement de violence, de sang qui coule, il pille la vie, c'est l'explosion de la violence. Et on voit un peu cette violence qui est contenue dans ces jeunes hommes. On aura l'occasion d'y revenir. C'est épouvantable. Ils anéantissent un village, une ville, et c'est un bain de sang. Et Jacob, il désapprouve violemment. Et sur son lit de mort, il va revenir sur cette affaire, il va dire de Siméon et de Lévi, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Le jeune Jacob, peut-être, il les aurait félicités de leur ruse assez ingénieuse, mais le nouveau Jacob, Israël, il ne veut plus de ça. La famille sera amenée à déménager, on ne peut pas rester après un tel fait divers. Et ça sera le moment d'une nouvelle rencontre avec Dieu et un nouvel engagement. Et Dieu renouvellera cette promesse. Il lui dira, le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et à ta descendance après toi, je donnerai ce pays. Donc, cette bénédiction qui est là depuis Abraham, tu es le porteur de cette bénédiction-là. Le deuxième événement dont il faut parler, c'est une histoire encore très tragique. C'est l'histoire de Joseph. Vous avez vu, je vous ai dit que l'amour de la vie de Jacob, c'était sa femme Rachel. Et aucune de ses autres femmes n'a jamais signifié la même chose pour Jacob. Et les enfants de Rachel, c'était ses enfants chéris. C'est Joseph. Et puis, Rachel va donner naissance à un deuxième fils, Benjamin, mais elle va mourir dans les couches. Et Benjamin est encore tout petit. Et pour l'instant, c'est Joseph qui concentre sur lui tout l'amour paternel de Jacob. Et c'est insupportable pour les autres enfants. Vous avez déjà eu entre les mères cette jalousie, cette concurrence terrible qui s'est en quelque sorte transmise aux enfants. Et quand Jacob a rencontré Ésaü, il avait aussi disposé les familles de sorte que les plus protégés, c'était Rachel et Joseph. Et les autres, ils étaient à des postes plus dangereux. Vous imaginez bien que ça laisse des traces dans les enfants. Ils ont toujours senti que Jacob en avait surtout pour Joseph. Et je vous ai dit, il y a une énorme violence dans ces garçons-là. Et cette violence va se retourner contre Jacob. Et quand ils auront l'occasion, ils vont décider de le tuer. Et un concours de circonstances fait qu'ils ne mettent pas à exécution ce meurtre, mais ils vont faire quelque chose de presque aussi atroce. Ils vont le vendre en esclave. Le condamner à une vie absolument misérable pour ce qu'il reste comme vie. Et il sera emmené en Égypte C'est une autre histoire, je n'ai pas le temps de vous la raconter, vous la connaissez sans doute. Mais en tout cas, on fait croire à Jacob que son fils est mort. Pendant 22 ans, il va croire que son fils chéri a été déchiré par un fauve. Et 22 ans plus tard, il y a une grande famine qui ravage le pays. Et Jacob sera amené à envoyer ses enfants, ses fils, en Égypte pour trouver de la nourriture. Et là, entre-temps, son fils Joseph est devenu vice-roi. C'est lui qui gère la nourriture. Et Joseph va jouer un jeu cruel avec ses frères. Il va les amener, entre autres, à faire venir en Égypte son frère Benjamin, qui est comme lui, donc fils de Jacob et de Rachel. Et Jacob, c'est tout ce qui lui reste de Rachel. C'est énorme ce que ça signifie pour lui, Benjamin. Sa femme est morte, son fils est mort, il lui reste que celui-là. Mais finalement, il va accepter de le laisser partir. Et c'est très intéressant ce qu'il dit à ce moment-là. Il dit à ses fils que le Dieu Tout-Puissant fasse que cet homme, là il parle du vice-roi d'Égypte, donc qui est en réalité son fils aussi, que cet homme ait compassion de vous et qu'il laisse revenir avec vous votre frère qui est resté là-bas en otage et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, eh bien que j'en sois privé. Ça, c'est Jacob après sa nuit du destin. Que le Dieu Tout-Puissant fasse. Et si je dois être privé, que j'en sois privé. Le jeune Jacob n'aurait pas fait ça. Le jeune Jacob aurait trouvé un stratagème pour s'en sortir. Jacob, maintenant, il compte sur Dieu. Que Dieu fasse. Et j'accepte son verdict. Et puis, il va donc au pays, et puis il découvre, enfin, les frères découvrent que c'est Joseph qui est encore en vie, et Joseph fait venir, en fait, toute la famille en Égypte, dont aussi son vieux père, qui a 130 ans, au moment des faits. Et Jacob va rencontrer le pharaon d'Égypte, et il va lui dire, quand le pharaon lui demande son âge, il va lui dire: les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Et si on peut avoir peut-être des réserves quant aux années peu nombreuses, il a quand même 130 ans, c'est vrai que la vie qu'il a menée était une vie très très difficile, parsemée de souffrances. Et Jacob va mourir en Égypte, entouré des siens. Là, vous voyez une scène. Imaginez un artiste où il bénit ses petits-fils. Et une des dernières paroles de Jacob qui nous est rapportée dans son testament spirituel, c'est celle-ci: j'espère en ton salut, Seigneur. Là, vous voyez le chemin parcouru de ce jeune homme tricheur vers cet homme mûr qui dit: j'espère en ton salut, Seigneur. Il est temps pour moi de finir, je n'ai plus beaucoup de temps. Je voulais vous laisser trois aspects, trois choses que cette histoire m'inspire. Cette biographie d'un truand, comme j'ai dit. La première chose, c'est que je vois là la grâce de Dieu. Quand vous regardez les acteurs de cette histoire, ces familles, c'est l'horreur, c'est la triche. L'un trompe l'autre, on s'entretue, il y a de l'inceste, il y a tout ce que vous voulez, c'est comme une mauvaise telenovela. Et Dieu construit avec ces gens-là. Il décide que son histoire du salut, il va le faire avec cette famille de pourris. Les 12 fils de Jacob, aussi mauvais l'un que l'autre, ça sera les porteurs. Ce sera les ancêtres de son peuple. C'est de là que va naître le Messie. Imaginez ça. Si ça ne nous parle pas de la grâce de Dieu, je ne sais pas. Deuxième chose que je me suis dit en contemplant la vie de Jacob, c'est que il traite quand même rudement Jacob. Jacob est son élu, On le sait dès avant sa naissance que ça sera lui. Et pourtant, quelle vie de souffrance. Quelle vie de souffrance. Il l'arrache à sa famille. Il le fait craquer à un moment donné. Il le laisse s'empourprer dans une situation tellement difficile qu'il finit par craquer. Et même après cette nuit de ce que j'appellerais sa conversion, même après cette nuit-là, une série de souffrances. Il va croire pendant 22 ans que son fils est mort. C'est ça l'élu de Dieu. Alors, si vous faites vous aussi partie des élus de Dieu, si vous êtes de ceux qui croient, vous êtes de ces élus, contemplez bien cette histoire et attachez votre ceinture. Parce que peut-être le chemin sur lequel il va vous mener sera un chemin rugueux. Enfin, et je ne peux pas ne pas dire ça, on voit aussi dans cette histoire l'immense amour de Dieu. Parce que rien dans cette souffrance n'est gratuit. Si Dieu emmène Jacob au point de où il craque, c'est qu'il faut le briser, ce bonhomme. Il faut qu'il sorte de son fonctionnement de tricheur. Il faut qu'il devienne celui qu'il est censé être, le lutteur avec Dieu. Et dans l'histoire de Joseph aussi, certes il l'a laissé dans l'ignorance pendant 22 ans que son fils était mort, mais il le fallait. T'imaginais que si Jacob avait su que son fils était esclave ou prisonnier en Égypte, on imagine qu'il aurait tout fait pour l'en sortir de là, mais il ne fallait pas, parce que Joseph ne serait pas arrivé à la position qui était la sienne, qui lui a permis de sauver sa famille par la suite. Donc, derrière toute cette souffrance, rien de gratuit, Dieu n'est pas méchant, même s'il emmène ses enfants, ses élus, à sa dure école, même s'il frappe de son fouet tout fils qu'il agrée, on l'a vu, il y a énormément d'amour de Dieu pour Jacob, et il le dira d'ailleurs, j'ai aimé Jacob et je l'ai préféré à Ésaü. Jacob, si on regarde la vie de Jacob, c'était un homme mauvais, Jacob. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un homme mauvais que Dieu a peu à peu amené à changer, à devenir un autre, en utilisant les moyens forts. L'amour de Dieu est là, mais c'est un amour assez viril, je dirais. Et je comprends pourquoi il se fait appeler père et non pas mère. Ce n'est pas un amour cocon. C'est un amour qui sollicite. Mais l'amour de Dieu a surabondé dans la vie de Jacob et il a fait de lui le père de son peuple et le porteur de la promesse. Et Jacob est mort sans avoir vu l'accomplissement de la promesse. Il lui était promis que sa descendance aurait Canaan. Il meurt en Égypte. Mais il a cru, Jacob. Il a cru, il avait raison de croire. Et je voudrais terminer avec une citation du psaume 146. Parce que voyez-vous, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, il est devenu le Dieu de Jacob aussi. Et c'est comme ça qu'il se fait appeler. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est assez incroyable quand on connaît quel bonhomme c'était. Il se fait appeler le Dieu de Jacob. Il lui fait cet honneur de se définir par cette relation particulière qu'il avait avec Jacob. Et David, plus tard, en réfléchissant à ce lien, il a très bien dit, me semble-t-il, et ce sera mon mot de la fin, il a dit... Heureux qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en le Seigneur, son Dieu. Amen.